France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Les pouvoirs du silence, c'est notre série de cette semaine. Ce matin, les silences insolents de Don Juan. C'est du Don Juan de Molière que nous allons surtout parler. On ne cesse de lui demander des explications, Elvire, de lui enjoindre de dire enfin ses croyances profondes, Sganarelle, de réprimander son comportement au nom de sa noble naissance, son père, Don Luis, de lui assurer qu'on veut finalement le sauver, Elvire encore. Mais Don Juan se tait, fait diversion, il est bouche bée devant tous ces discours qui invoquent le ciel, alors que du ciel il n'entend, lui, aucune parole claire.
Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle un peu plus clairement, s'il veut que je l'entende.
Il est clair que le silence de Don Juan répond à un certain silence de Dieu, en tout cas pour lui. Incertitude ultime qui oblige à se taire quand on ne sait pas faire semblant. C'est un affront impudent, bien sûr, mais ce silence sceptique n'est pas sans courage, ni me semble-t-il sans un certain tragique, celui d'un homme désancré qui assume seul de ne pas savoir. Avec Mozart, un siècle plus tard, la musique change la donne. Un autre enjeu est au centre de son opéra qui ne l'était pas dans la pièce de Molière, le désir. Le désir qui séduit les femmes, mais en vient aussi à les forcer. Le Don Giovanni de Mozart est plus sexuel et plus violent que le Don Juan de Molière, plus ancré, au fond, dans une pulsion à laquelle il se prétend soumis. Mozart a-t-il quand même laissé des silences dans sa musique ? Nous allons parler de toutes ces questions ce matin. Bonjour Jean-Charles Darmon.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature française à l'École normale supérieure à Paris, spécialiste de la littérature dite de l'âge classique, dont fait partie le corpus de Molière. Son Don Juan date de 1665. Et bonjour Bernard Sèvres.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de philosophie de l'Université de Lille. Vous avez travaillé sur beaucoup de sujets dans votre itinéraire, vous êtes souvent venu ici, sur la musique notamment, mais encore sur les courants sceptiques dans l'histoire de la philosophie, des anciens à Montaigne. Or, pour les sceptiques, se taire était une attitude quasi obligée. Vous nous direz si on retrouve cela chez Don Juan.
Je serais bien aise, cependant, d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, Don Juan, je vous prie. Et voyons de quelle heure vous serez-vous justifié.
Madame, voilà Sganarelle qui sait pourquoi je suis parti.
Moi, monsieur, je n'en sais rien, s'il vous plaît.
Eh bien, Sganarelle, parlez. Il n'importe de quelle bouche j'entende ces raisons.
Allons, parle donc, madame.
Mais que voulez-vous que je dise ?
Approchez, puisqu'on le veut ainsi. Et me dites un peu les causes d'un départ si prompt.
Tu ne répondras pas ?
Mais je n'ai rien à répondre. Vous vous moquez de votre serviteur.
Je veux te répondre, te dis-je.
Madame...
Quoi ?
Monsieur, si tu... Madame... Les conquérants Alexandre et les autres mondes sont cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire.
Vous plaît-il, Don Juan, nous éclaircir ces beaux mystères ?
Madame, vous dites la vérité.
Oh, que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour, mais qui doit être accoutumé à ce sort de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie ? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi ? Que vous m'aimez toujours, avec une ardeur sans égale ? Mais que rien n'est capable de vous détacher de moi, que la mort. Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à rester ici, et que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens. Assurez que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible, qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre, et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre, et non pas être interdit comme vous êtes.
Je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai donc point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous et que je brûle de vous rejoindre. Puisqu'enfin, il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir.
Don Juan ici, c'est Michel Piccoli, Sganarelle, Claude Brasseur, Elvire, Anouk Ferjac. Il s'agit du téléfilm de Marcel Bluval, Don Juan, donc Don Juan ou le festin de Pierre, pour dire le titre complet de la pièce de Molière. Et c'est un film de 1965. Jean-Charles Darmon, il se tait, Don Juan, parce que ce qu'il a à dire est indicible. Il ne la désire plus. On ne dit pas des choses pareilles. C'est ça?
Oui, alors ça c'est là évidemment une première hypothèse. Et Bluval, dans sa mise en scène, faisait figurer un Piccoli qui était d'une certaine manière peu intéressé par la chose érotique. C'est-à-dire que l'hypothèse de Bluval, qui était un peu, j'allais dire, post-romantique, hein, c'était l'idée d'un Don Juan qui sait qu'il est damné depuis le début et qui va vers la mort. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est plutôt son rapport à la loi, à la transgression, beaucoup plus qu'à
l'éros.
Qu'à
l'éros. Si Molière,
voilà.
C'est le cas, il n'y a aucune scène.
Voilà. Et donc, Bluval fait partie de ceux qui mettent ça en avant,
oui.
Beaucoup plus que d'autres
oui.
Metteurs en scène. Et en cela, il est un peu l'héritier de Villars. Hein, parce que Villars, on en reparlera peut-être,
oui, oui. Hein,
mais Villars, lui, avait radicalisé un petit peu le rôle de Don Juan en ce sens-là, en faisant primer les questions liées à la croyance, hein, liées à l'interdit, à la transgression, et au dialogue silencieux avec le ciel,
oui.
Sur l'érotisme et l'hédonisme auquel on avait souvent... rattacher le libertinage de Don Juan au XVIIe siècle.
On va en parler. Mozart, l'opéra commence sur une scène de sexe, enfin, et de forçage de Anna, de tentative de viol, on pourrait dire
Absolument.
Aujourd'hui. Donc, on va commenter cela. Mais Eros, dans ce qu'il a, paraît-il, d'insatiable et d'incontrôlable, enfin, c'est le problème que pose Mozart, évidemment, qui donne à penser et à répondre, c'est le problème de Mozart. Ce n'est pas le problème de Don Juan, du Don Juan de Molière, Bernard Sève. Il y a un côté dans le Don Juan de Molière qui est, je ne sais pas, pour ce qui concerne les grandes questions, Dieu, la morale, les normes sociales, et un côté, je ne peux pas, je n'ai plus envie, je ne désire plus. C'est un ne pas tout le temps. Et ce silence dit des choses de cette sorte, non?
Oui, alors ce silence, je crois qu'on peut l'entendre de deux manières. Celui que vous nous avez fait, pour ainsi dire, entendre. On peut l'entendre comme un silence de l'homme embarrassé, parce qu'il ne peut pas dire, il est dans ses contradictions, il est ailleurs. Et le silence de l'homme embarrassé qui cherche une échappatoire, en déléguant à un autre la parole qu'il ne souhaite pas porter lui-même. C'est un silence de comédie, c'est du théâtre, au sens plutôt péjoratif du terme. Mais on peut aussi entendre ce silence en un sens totalement différent, comme le silence de quelqu'un qui ne peut pas se faire comprendre, parce qu'à la limite, il ne se comprend pas lui-même. Et en ce sens, c'est un silence extrêmement profond. Et on est du côté de la tragédie ou de quelque chose qui est totalement différent.
Je ne sais pas, et surtout, je n'aime pas dissimuler.
Je ne sais pas, je n'aime pas dissimuler, vous ne me comprendrez pas, et de toute façon, je ne me comprends pas moi-même, et qu'importe.
Oui.
Les choses comme ça.
Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Charles Darmon? Est-ce que vous diriez aussi que dans... Je n'aime pas dissimuler, or les paroles habituelles, y compris celles que vous venez de me proposer, Elvire, c'est les paroles qu'on dit toujours, elles dissimulent. Moi, je ne suis pas de cette facture. Et au fond, il y a en Don Juan le personnage d'Alceste, du misanthrope qui se profile, c'est-à-dire celui qui envisage, si déjà il parle, de dire la vérité.
Oui, effectivement.
Le sincère, enfin, si ça existe, évidemment.
Alors... effectivement, il y a plusieurs types de libertins, de figures du libertinage que Molière mobilise conjointement, je crois, dans la mémoire de ses spectateurs, de ses amis aussi, cercle d'amis. Hein, bah, il y a l'image superficielle du libertin, effectivement, qui vit d'esquive en esquive, en quelque sorte, qui se dérobe, qui provoque en permanence.
Alors j'avais envie, je n'ai plus envie.
Voilà. Et donc, oui. Cette figure-là, elle existe. Mm. Elle a des sources précises. Hein. On parle souvent du chevalier de Roquelaure, hein, qui était dans une sorte de provocation permanente, baptisait des chiens et des chiennes, qui les faisait se marier dans des églises, etc. Vous voyez, mais une provocation de ce type... Où le libertin ne cherche pas trop à s'expliquer au fond. Et là, on n'est pas vraiment dans ce que disait Bernard Sèvres. On est plutôt dans une sorte de Sganarelle le dit, hein, libertin sans savoir pourquoi, en quelque sorte. Et puis il y a des libertins, effectivement. Alors là, c'est ce que vous dites, hein, qui sont beaucoup plus dans une réflexivité.
Sur les mystères du désir.
Absolument.
Et le fait qu'on ne maîtrise pas ces choses, et ça, pour un homme classique, c'est une catastrophe.
Absolument. Et là, effectivement, il y a des figures de la parésie, en quelque sorte, du dire vrai, hein, chez Don Juan.
Oui.
Il y a des moments où on pense à ces libertins qui se réclamaient du cynisme, hein, de la philosophie cynique, c'est-à-dire qui opposent aux conventions du monde, du discours... Hein, une sorte de vérité brute, hein, qui tend un miroir, en quelque sorte, aux conventions et aux faux-semblants. Et il y a cet aspect-là aussi dans ce donjon.
On va y revenir, parce qu'il y a un autre silence qui va lui aussi faire référence au corps. Tiens, tout d'un coup, je la désire de nouveau. C'est le moment, dans l'acte 4, scène 6 puis 7, où Elvire revient le voir... Et lui dit, mais je ne vous en veux plus du tout, je voudrais vous sauver du mal qui a une emprise sur vous. On écoute.
De grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut, que je vous demande avec larmes. Et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez le moins de mes prières. Et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels.
Pauvre femme.
Je vous ai aimé... avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toute chose pour vous. Et toute la récompense que je vous en demande, c'est de corriger votre vie, de prévenir votre perte. Sauvez-vous, je vous prie. Ou pour l'amour de vous, ou pour l'amour de moi. Encore une fois, Don Juan, je vous le demande avec larmes. Et si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Je m'en vais après ce discours. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire.
Madame, il est tard, demeurez ici, on vous y logera le mieux qu'on pourra.
Non, Don Juan, ne me retenez pas davantage.
Madame, vous me ferez plaisir de demeurer, je vous assure.
Non, vous dis-je. Ne perdons point de temps en discours superflu. Laissez-moi vite aller. Ne faites aucune instance pour me conduire. Et songez seulement à profiter de mon avis.
Sais-tu que j'ai encore senti quelque émotion pour elle, que j'ai trouvé de l'agrément dans cette nouveauté bizarre et que son habit, son air languissant et ses larmes ont réveillé en moi quelques petits restes d'un feu éteint.
C'est-à-dire que ces discours n'ont fait aucun effet sur vous?
Vite à souper.
Vite à souper? Il ne lui répond pas, Bernard Sèvres. Mais est-il seulement dans le cynisme et la plaisanterie? Là encore, ne touche-t-on pas un problème de fond, un vertige intérieur?
Le vertige intérieur, il a écouté Elvire, ça a réveillé son désir, et voilà.
Il ne sait pas bien.
Et il ne sait pas bien. Mais le cynisme, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Charles Darmon tout à l'heure, il y a du cynisme. Et il y en a une preuve manifeste dans l'exposé, enfin pas le propos qu'il tient à Sganarelle, après la seconde scène avec son père, quand il a faim auprès de son père de s'être converti à la morale et à la religion. Et ensuite, il dit à Sganarelle, mais je suis moqué de lui en réalité. Bon, c'est un discours qui est cynique, mais qui est cynique en un sens limité, parce que c'est un cynisme qui s'adresse à une seule personne. Ouais. Le vrai cynisme, il est coram populo, pour tout le monde. Oui. Et là, c'est un affichage d'un cynisme qui est destiné à Sganarelle, qui est un valet qui ne compte pas aux yeux de Don Juan. Donc, voilà, il y a une ambiguïté de ce cynisme de Don Juan.
Et puis, il y a ce « je ne sais pas ». Il n'est pas tout à fait sûr de de qui il est, etc.
Je
et
ne
alors
sais pas.
Là, et là, Jean-Charles Darmon, puisqu'on parlait de la tradition libertine, il y a un petit côté Valmont à l'avance et en même temps une énorme différence. Quand Valmont écrit à Madame de Tourvel, je vous aime plus, mais ce n'est pas ma faute, le fameux ce n'est pas ma faute, on croit c'est 120 ans plus tard, on croit l'entendre chez le Don Juan de Molière, mais justement, il n'y a pas cette violence de Valmont qui jouit presque de lui dire ça. Là, on a l'impression que le Don Juan de Molière, il c'est pas sa faute, mais peu de mots, il n'écrit pas de lettres, justement. Vous êtes d'accord ?
Oui, je pense que le Don Juan de Molière, effectivement, on pourrait faire des parallèles, hein, les libertins de Laclos, hein, conquérir notre destin. Et effectivement, le Don Juan de Molière finit sa grande tirade, qui est l'éloge de l'inconstance amoureuse, hein, par une comparaison avec Alexandre. Hein, et s'il y avait d'autres mondes, je les voudrais tous pour oui. conquérir plus de cœur encore. Donc là, on pourrait faire des analyses. Mais au fond, la conquête en tant que telle, vous avez raison, hein, il parle d'une douce violence, hein, Don Juan, hein, dans la réduction progressive de l'autre. Hein, c'est ce qui l'intéresse, une douce violence. Donc elle existe, hein, ce modèle existe. Mm-hmm. Mais il est assez vite un petit peu délaissé. C'est-à-dire qu'il en fait la théorie au début de la pièce. Hein,
oui.
Mais dans sa pratique, dans ce qui va suivre, ce n'est plus exactement de cela qu'il va être question. Mais d'autres choses. Et en particulier, avec Elvire, le fait que, en mimant la rhétorique dévote, hein, dont Juan dit... Oui. J'ai fait réflexion que c'est un adultère déguisé, puisque vous aviez fait vos vœux, et le ciel est jaloux de ces sortes de choses. C'est ça qui intéresse Don Juan beaucoup plus.
Oui, oui.
Et il met le doigt, au fond, sur une sorte de défaut d'Elvire, c'est-à-dire d'Elvire est entre deux chaises, hein, entre les vœux qu'elle a prononcés et son désir d'être avec Don Juan, les vœux qu'elle a rompus. Et Don Juan, là, a une cruauté, une certaine forme de cruauté, mais qui n'est pas la violence de Valmont, pas du tout.
Oui, pas du tout. Oui.
Il met le doigt, et alors celui qui mettait l'accent, c'est celui qui a sorti Don Juan du purgatoire, hein, de cette pièce du purgatoire où elle était depuis deux siècles, c'est Jouvet, en 48.
Oui. C'est-à-dire, expliquer
un Don Juan méchant, hein, d'une sorte. Il arrivait sur scène, alors la question de la séduction ne se posait même plus. Hein, Don Jouvet avait plus de 55 ans, je crois, quand il a joué la pièce. Mmh. C'était vraiment pas un jeune premier.
C'était méchant.
Et méchant, ouais. Une méchanceté extraordinaire. Et je pense que le pauvre Valmont n'a pas du tout cette méchanceté-là.
Alors que Villard, vous l'avez dit, je crois, dans.
Oui.
On s'en est parlé avant cette émission. Villard, c'est. Quand ils le mettent en scène, Roland Barthes, en 1954, a commenté cette mise en scène.
Texte admirable,
c'est un Don Juan silencieux.
Absolument.
Et avec toute l'ambiguïté du silence.
Ah oui. Alors, l'ambiguïté du silence, mais en même temps, la radicalité du silence de Villard. Villard, d'ailleurs, dans des entretiens que j'ai relus il n'y a pas longtemps, disait qu'il avait modifié son interprétation en la simplifiant à une ligne, à une dimension de Don Juan. Au départ, il avait un Don Juan un peu plus polyphonique, un peu plus compliqué, un peu plus hésitant entre plusieurs voix. Oui. Et il a choisi une ligne. Et Barthes dit, c'est métallique. C'est-à-dire, oui. Il a choisi la ligne, anachronique, en quelque sorte, hein, dit Barthes, de l'athée post-cartésien, hein, qui résume, au fond... tous les athées qui lui sont postérieurs, hein, dit Barthes. Délibérément anachronique, d'ailleurs il s'en prend à la Sorbonne, à Antoine Adam, etc. Hein, c'est-à-dire aux lectures contextualisantes,
oui.
En disant que Villard a mis le doigt là sur quelque chose qui va au-delà de la psychologie des personnages. Il en a fait un athée post-cartésien.
Mais du coup, un athée sûr de lui. Or, cette question se pose dans le Don Juan de Molière. Roland Barthes écrit à propos de la mise en scène de Villard qui accentue le silence. Le silence de Villard, écrit Barthes, c'est le silence d'un homme non qui doute, mais qui sait. C'est-à-dire, non pas un scepticisme poseur, je cite encore Barthes, mais une détermination profonde. Et pour ce qui concerne cette interprétation de Barthes, moi j'ai des doutes. J'ai quand même l'impression que le Don Juan de Molière, justement, il n'est pas sûr. Il dit juste, contrairement à tout le monde, ben moi je ne sais pas, moi s'il y a un ciel qui parle, il ne me parle pas. J'ai l'impression que Barthes force la donne un peu. Vous ne trouvez pas ?
Alors, je voudrais faire...
Bernard Sèvres.
Il force peut-être un peu la note, mais je voudrais faire une réflexion préliminaire sur le statut ontologique, pardon d'employer un grand mot, le mode d'existence de Don Juan. Oui. C'est un personnage de fiction, mais c'est un personnage de fiction théâtrale, et non pas de roman. Ce qui veut dire que le metteur en scène va contribuer à déterminer la figure de Don Juan. Une figure mythique comme Don Juan dans une pièce de théâtre est une figure sous-déterminée. Oui. C'est-à-dire que tous les traits de caractère ne sont pas indiqués. Je prends juste un exemple. Au moment de la première scène avec son père, Don Juan ne répond pas, mais il dit quelque chose du genre, j'ai plus la phrase exacte, vous feriez mieux de mourir. Bon, et il le dit après la didascalie de Molière, enfin qui dit « Don Luis, le père, sort ».
Il le dit à Sganarelle, il ne le dit pas à son père.
Mais l'interprétation spontanée, bien entendu, c'est de dire que le père n'entend pas cette phrase. Mais certains metteurs en scène, paraît-il, choisissent de faire jouer Don Luis de telle sorte qu'il entend ce que dit son fils. Et alors là, c'est absolument épouvantable. La phrase change complètement de sens et le personnage de Don Juan change aussi de sens selon qu'il fait... entendre à son père cette phrase « vous faire mourir » ou s'il ne le fait pas entendre. Tout ça pour dire qu'il y a plusieurs Don Juan possibles selon les...
Oui,
non seulement les interprétations des professeurs de littérature, mais selon les metteurs en scène. Et donc, pour répondre à votre question contournée... Ce que dit Roland Barthes est peut-être un petit peu exagéré, mais c'est exagéré par rapport à une autre image
scène,
que nous avons de Don Juan et par rapport à d'autres mises en scène que nous avons en tête ou que nous préférerions, peut-être.
Alors, je vous remercie d'avoir évoqué la scène avec le père Don Luis, parce que je me permets là aussi de lancer une hypothèse. L'envie qu'il meure, le père la prononce aussi à son endroit. D'ailleurs, il a demandé au ciel qu'il naisse. Il avait du mal à voir cet enfant. Et il regrette d'avoir demandé au ciel. Donc au fond, le désir de meurtre, il répond au désir, un certain désir de non-naissance que dit explicitement le père. Je vous propose d'écouter tout simplement cette scène. C'est toujours dans la mise en scène de Marcel Bluval.
Ainsi vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes nés. Ils vous désavouent pour leur sang. Et tout ce qu'ils ont fait d'illustre ne vous donne aucun avantage. Au contraire. L'éclat n'en rejaillit sur vous qu'à votre déshonneur. Et leur gloire est un flambeau qui éclaire aux yeux d'un chacun la honte de vos actions. Apprenez enfin qu'un gentilhomme qui vit mal est un monstre dans la nature. Que la vertu est le premier titre de noblesse. Que je regarde bien moins aux noms qu'on signe qu'aux actions qu'on fait. Et que je ferai plus d'état du fils d'un crocheteur qui serait honnête homme que du fils d'un monarque qui vivrait comme vous.
Monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler?
Non. Insolent. Je ne vais point m'asseoir, ni parler davantage. Et je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton âme. Mais sache, fils indigne, que la tendresse paternelle est poussée à bout par tes actions. Je saurais plutôt que tu ne penses mettre une borne à tes dérèglements, prévenir sur toi le courroux du ciel et laver par ta punition la honte de t'avoir fait naître.
Bernard Sèvres, je vous écoute.
C'est une scène tellement extraordinaire que je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose. Cette façon de dire à son père « asseyez-vous, vous serez plus à l'aise », c'est une manière paradoxale de lui dire « taisez-vous ».
Oui, et puis c'est encore le corps.
C'est encore
moi,
le corps.
Moi, je parle du corps, excusez-moi. Voilà. Asseyez-vous, vous seriez mieux.
Asseyez-vous, c'est comme si c'est une sorte de formule de politesse mondaine qui ne convient pas du tout et qui est une façon d'annuler l'importance de tout ce que son père vient de faire à son fils comme reproches fondamentaux.
Il lui a dit qu'il est un monstre dans la nature.
Il lui dit qu'il est un monstre dans la nature.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans le silence, parce qu'il parle peu là, hein, Don Juan, il y a cette idée finalement, est-ce vrai ? Est-ce que ce n'est pas la nature qui est comme ce que je suis, c'est-à-dire pas clair, pas clair dans ce qui concerne les affaires du désir. Et puis, le monstre dans la nature, Bernard Sèvres, vous êtes un grand spécialiste de Montaigne. Montaigne adorait les monstres. C'est vous qui me l'avez appris, parce que j'ai suivi un cours de vous il y a longtemps sur Montaigne. Donc, c'est pas rien ce mot.
Je ne sais pas si Montaigne adorait les monstres, mais c'est sûr que ça l'intéressait beaucoup.
Oui, ça l'intéressait.
Ça l'intéressait beaucoup et il avait plutôt tendance à les ranger dans un ordre plus complexe de la nature, et connu de Dieu seul et non pas de nous, pauvres humains à la raison limitée. Mais si, pour revenir à votre hypothèse, si Don Juan de Molière acceptait d'envisager qu'il est un monstre et validait cette idée, alors là, on irait plutôt du côté du Marquis de Sade.
Non, mais au contraire, je pense simplement qu'il ne dit rien.
Oui, oui.
Contrairement peut-être à ce que dit Roland Barthes, alors, il n'y a pas de d'avis déterminé, profond. Il y a un scepticisme. Il y a presque un monstre dans la nature. Et puis, un point d'interrogation.
Il y a un non-savoir, de ne pas savoir ou de ne pas chercher plus loin et de s'en tenir au plan du désir immédiat ou de l'apparence.
Force du scepticisme, vous seriez d'accord, Jean-Charles Darmon, plus que force d'une proposition déterminée de la part de Don Juan?
Oui, je serais d'accord jusqu'à un certain point.
Oui.
Parce que... C'est vrai que c'est une très belle idée de convoquer Don Juan pour une réflexion sur le silence, parce que ça ne va pas de soi, parce que ce Don Juan se tait en certains moments, mais en même temps, Molière crée un Don Juan qui est beaucoup plus rhéteur que les Don Juan qui ont précédé. Si vous regardez celui de Tirso, les Don Juan français de 59...
Dorimont, non, c'est ça ce que vous dites.
Oui,
et là,
Dorimont,
il est très bavard.
Villiers,
il est pas très bavard là-dedans, dans ces phrases-là.
Alors, Dorimont et Villiers, ils mettent en scène eux des athées dogmatiques.
Voilà, qui causent,
qui dialoguent avec le ciel, et le ciel lui-même est plus bavard. est incroyablement bavard avec des argumentations théologico. Politico-moral, dont Juan refuse de se laisser catéchiser. Voyez la scène.
Très bien, j'imagine. En tout cas, j'ai pas lu.
Et Molière a gommé tout ça. C'est-à-dire que il n'est pas intégralement silencieux. Il y a des moments où, au contraire, on a un déploiement de discours, hein, où il se fait le théoricien de sa propre pratique. Grande tirade sur l'inconstance. Qui est structuré admirablement. Aucun Don Juan n'a jamais parlé comme ça. Grande tirade sur l'hypocrisie, où il fait une théorie générale de l'hypocrisie des votes et une théorie générale de sa pratique de conversion, hein, du libertin qui va se convertir. On est en pleine querelle du Tartuffe. Hein, et c'est pour ça que je limiterai le scepticisme en ce qui concerne Molière lui-même, parce que Molière conçoit cette pièce dans un moment où il ne songe qu'à faire rejouer Tartuffe. Donc là, il n'est pas sceptique à l'égard des dévots, à l'égard etc. Oui. C'est brûlant pour lui, cette affaire. Et Don Juan, pour lui, c'est une continuation du Tartuffe par d'autres moyens. Hein. Et donc, ce qui est assez admirable, au fond, c'est que Molière va faire jouer plusieurs types de silence. Alors, effectivement, il y a le grand libertinage que Molière admire, le libertinage érudit, avec des harmoniques philosophiques très précises. Gassendi, hein, dans les exercices en forme de paradoxe contre les aristotéliciens, fait une théorie de la philosophie qui se fait en silence. Il dit la grande philosophie, la vraie Germana philosophia, la vraie philosophie se fait aujourd'hui, s'est dérobée des mains des scolastiques, hein, pour se faire aujourd'hui dans l'ombre et le silence. Bon. Et là, ça implique une pratique du doute, du scepticisme, hein, réservé à quelques-uns, hein, qui ne s'enseignent pas comme ça à tout va, et qui permet de refonder une science des apparences. Et Don Juan est un peu dans cet ordre-là. Hein, face au surnaturel, il veut voir ce que c'est. Il ne surinterprète pas. Il veut voir ce que c'est. C'est un phénomène.
Il dit que la statue lui a peut-être fait en effet un signe.
Il veut toucher.
C'est très bizarre.
Avec son épée, il veut éprouver le phénomène.
Il n'a pas peur tout de suite. Il est d'abord
curieux. À la différence des Don Juan précédents.
Oui, qui tout de suite voit un signe du ciel.
Voilà. Alors, il y a effectivement cette composante sceptique.
Oui.
Mais il y a aussi une composante qui n'est pas sceptique du tout, hein, celle du défi, Hein, on n'est pas du tout dans l'isosthénie. Hein, il tranche. Et surtout, il convertit la parole de l'autre et ses messages. Il convertit le message en spectacle. C'est-à-dire, c'est un metteur en scène. Vous en seriez mieux pour parler. Il fait le même coup avec Elvire dans la scène que vous aviez lue, dans la scène finale où elle vient pour essayer d'obtenir de lui un repentir. Oui. Il l'interrompt en disant « Madame, il est tard, demeurez ici. On vous y logera le mieux qu'on pourra. » C'est un peu l'équivalent de « Vous serez mieux, asseyez-vous, hein, au père. »
Alors, pour continuer sur la question sceptique, jusqu'à quel point sceptique par défi, ou est-ce que être dans le défi, c'est déjà être au-delà du scepticisme, qui me paraît vraiment une question très importante, et le silence en parle, si j'ose dire, mieux que tous les mots. Il nous faut maintenant entendre la grande scène où Sganarell provoque directement son maître. En quoi croyez-vous donc? Quand même, il n'existe pas de gens qui ne croient en rien. C'est l'acte 3, scène 1, écoutez.
Est-il possible que vous ne croyiez point du tout au ciel?
Laissons cela.
C'est-à-dire que non. Mais à l'enfer. Tout de même. Et au diable, s'il vous plaît. Ça?
Oui, oui.
Aussi peu. Enfin, ne croyez-vous point à l'autre vie?
Ah, ah, ah.
Voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Oh, dites-moi un peu. Le moine bourru, qu'en croyez-vous? Hein?
La peste soit du fat.
Oh, et voilà ce que je ne puis souffrir, car il n'y a rien de plus vrai que le moine bourru, et je me ferai pendre pour celui-là. Encore faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce donc que vous croyez?
Ce que je crois,
oui.
Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarell, et que 4 et 4 sont 8.
La belle croyance que voilà. Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique. Il faut avouer qu'il se met d'étranges folies dans la tête des hommes. Et pour avoir bien étudié, on en est bien moins sage le plus souvent. Pour moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous, Dieu merci, et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Mais avec mon petit sens, mon petit jugement, ben, je vois les choses bien mieux que tous les livres. Et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander qui a fait ces arbres-là, hein, ces rochers, cette terre, et ce ciel que voilà là-haut, et si tout ça s'est bâti de lui-même. Ben vous voilà, vous, par exemple. Vous êtes là. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul? N'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire? Mais pouvez-vous voir toutes les inventions dont la machine de l'homme est composée, sans admirer de quelle façon cela est agencé l'un dans l'autre, hein, ses nerfs, ses os, ses veines, ses artères, et tous ces autres ingrédients qui sont là et qui... Oh, dame, interrompez-moi si vous voulez, je ne saurais discuter si l'on ne m'interrompt. Vous vous taisez exprès et me laissez parler par belle malice.
J'attends que ton raisonnement soit fini.
Et puis, nous aurons juste après, nous avons coupé, mais Sganarell qui continue de développer sur le côté magnifique, il donne des ordres aux membres de son corps, à tous les organes, ils font ce qu'il veut, il bouge, il tourne sur lui-même et il se casse la figure. Et Don Juan lui dira, voilà ton raisonnement qui a le nez cassé. Bernard Sève, comment entendez-vous cette scène ce matin? Parce qu'après tout, on peut changer d'interprétation. Mais ce matin, vous entendez quoi?
Alors j'entends déjà la formule « voilà ton raisonnement qui a le nez cassé » qui clôt la séquence comme une formule très théâtrale, très rhétorique. Mais enfin, Don Juan aime bien avoir le dernier mot quand même. Pour quelqu'un qui aime le silence, qui parle peu, il aime bien avoir le dernier mot. Or ça n'est pas sceptique. Vouloir avoir
effectivement,
le dernier mot. Le sceptique est celui qui reste quand même dans l'indétermination, je ne détermine rien. Enfin bon, je signale au passage d'ailleurs qu'il y a un personnage sceptique chez Molière dans Le Mariage forcé, c'est Marfurius.
Oui.
Et Marfurius dans dans Le Mariage forcé de Molière, qui est une année ou deux, je crois, avant Don Juan, énonce toute une série de ce qu'on appelait les voies de la sceptique, les fauna scepticae, et enfin je ne détermine rien, il se peut, je ne sais, etc. Bon, voilà. Cette litanie de formules sceptiques toutes faites, Don Juan ne les reprend pas à son compte. Alors, pour ce qui est du discours de Sganarell, c'est évidemment un pot pourri. d'idées qu'il est peut-être difficile de rattacher à une seule philosophie, d'idées qui sont un peu dans l'air comme ça. L'animal, le corps machine, c'est devenu assez banal en 1660.
Il y a un petit relent de Descartes caricatural.
Il y a un petit relent de Descartes caricatural.
Et puis voilà, il y a
de Descartes flottant dans l'air, si on peut dire. Voilà.
Oui.
Et c'est un pot-pourri au sens où c'est des thèmes différents, un petit peu hétéroclites et qui sont attachés les uns aux autres sans ordre. Voilà.
Mais quand il répond, je crois que 2 et 2 sont 4 et 4 et 4 sont
8,
il lui dit quelque chose là.
Oui, ça, il dit quelque chose.
On pourrait dire en effet que ça n'est pas sceptique, ça, de dire ça. Pas tout à fait, mais il y a quelque chose comme une machine à calculer, au moins dans notre tête.
Il y a quelque chose comme une machine à calculer. Mais je reviens sur une phrase qui est très importante, qui était à la fin de l'extrait que vous nous avez fait entendre. Lorsque Sganarelle dit « il faut bien croire quelque chose dans ce monde ».
Bon. Voilà.
Or, au fond, d'abord le sceptique ancien, disons, essaie de diminuer au maximum le nombre de croyances ou le taux de croyances. Il faut croire le moins possible, il faut avoir le moins possible d'opinions, de préjugés, il faut réduire la croyance. Et d'une certaine façon, là je rejoins votre danger en sceptique, réduire la croyance à quelque chose qui n'est plus de la croyance, mais qui est une proposition arithmétique évidente et 2 et 2 font 4, 4 et 4 font 8, c'est une manière aussi de la part de Don Juan de répondre à Sganarelle, non, il n'est pas nécessaire de croire.
Donc quand même, je reconnais que c'est plutôt ma sensibilité d'aller chercher le sceptique, là, je trouve en effet que c'est impressionnant. Il lui dit, voilà, ça fonctionne, nous avons une capacité de calculer. Après, tout ce dont tu me parles, le ciel, Dieu, les arbres, nos géniteurs, la vie, je m'accommode d'un abysse de non-savoir.
Voilà.
Et je ne remplis pas ça par des croyances comme tout le monde.
Mais c'est un scepticisme un peu paresseux, parce qu'un vrai sceptique argumenterait. Il aurait des arguments pour et contre, il montrerait que les plus sages se contredisent, enfin bon, tout l'arsenal de l'argumentation sceptique. Don Juan se contente de se moquer, d'écarter, quoi, voilà.
Jean-Charles Darmon, vos réflexions là, par rapport au commentaire qui vient d'être fait par Bernard Seff de cette scène avec Sganarelle. Et puis peut-être sur le silence, c'est sceptique ou non. Mais ensuite, j'aurais vraiment une question à vous poser aussi sur l'élégance du silencieux, pour l'homme classique notamment. Je vous écoute.
Oui, alors il y aurait tant de choses à dire que j'en suis presque contraint au silence, une sorte d'apophatique. Mais je dirais que effectivement, face à Don Juan, que Sganarelle au fond laisse par les faits parler, et donc avec une sorte de cruauté sur les questions métaphysiques, il aime faire parler Sganarelle, mais jusqu'à un certain point. Et après, il devient violent, il l'interrompt, voire il le bat. Il le menace de le battre quand Sganarelle continue et convertit cela en morale. Et Don Juan laisse parler Sganarelle, et effectivement, Molière met dans la bouche de Sganarelle des arguments qui se télescopent, dans une sorte d'imbroglio. Le moine bourru, etc., qui viennent se greffer sur ce qu'on appellera avec Kant la preuve physico-théologique, prouver Dieu par l'harmonie du monde, et en particulier l'harmonie du corps humain, et de remonter de la création à la de la créature à la création, etc. Donc ce grand mélange-là est vraiment insupportable sur une scène de la comédie. Ce sera coupé, d'ailleurs.
Ah bon ?
Et Thomas Corneille, ne va être joué... il y aura que 15 représentations, après ce sera terminé, et la version qu'on jouera après, ce sera celle de Thomas Corneille en vert, et tout ça disparaît. Parce que c'est insupportable sur une scène de comédie, ce type de brouillage.
Et est-ce que je peux, sur ce point, vous poser une question à l'intérieur de votre analyse ?
Oui.
Parce qu'il y a aussi des choses qui se passent dans la pièce qu'on ne voit pas. Alors là, il n'y a pas besoin de les couper, elles ne sont pas là. Et notamment, une grande scène de courage qui ne suscite aucune parole chez Don Juan, mais un acte immédiat. Ouais. C'est à l'acte 3, après avoir la fameuse scène du mendiant, lui avoir donné une pièce pour l'amour de l'humanité, bon là il a été très cruel, indéniablement, il dit soudain, oh que vois-je, un homme attaqué par trois autres, la partie est trop inégale, je ne dois pas souffrir cette lâcheté. Et voilà l'aristocrate, élégant, chevaleresque, qui rend service à un autre aristocrate. Il y a une façon de dire, ma noblesse, j'ai pas besoin d'en parler, mon courage, j'ai pas besoin d'en parler, je fais.
Absolument. Et c'est pour ça qu'on là, on est très loin de l'apraxie sceptique, dont se moque Molière, comme tant d'autres, c'est-à-dire le scepticisme qui conduit à une sorte d'immobilité en ce qui concerne l'action. Alors que lui multiplie, alors, peut-être pas les actions, là il y en a une, mais les actes de langage, puisque ce qui se passe dans Don Juan est une action essentiellement verbale, performative. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est le vertige de Sganarelle face à Don Juan. Or, c'est thématisé par certaines formes de pensée libertine, ce vertige.
Ah.
C'est thématisé notamment par les grands lecteurs de Montaigne, tout près de Molière par Saint-Évremond, par exemple, qui dit... ceci, et je pense que ça intéressera Bernard Sèvres, quand il fait parler les libertins dans l'Ecclésiaste, tout est vanité, il y a des tempours, etc., ne voit-on pas qu'il rapporte à la seule sagesse la connaissance de nous-mêmes, Salomon ? Il forme tous les doutes, s'embarrasse d'ordinaire la raison humaine, il fait une peinture naïve de son irrésolution, de ses désirs, de ses dégoûts, de son ignorance. Enfin, il conclut que la seule sagesse éternelle peut démêler ce labyrinthe. Qu'il faut adorer la profondeur de ces mystères et que le silence d'un homme sage, silence d'un homme sage, vaut mieux que le raisonnement d'un philosophe. Et plus bas, Saint-Évremond ajoute, c'est dans une lettre, c'est, monsieur, selon moi, en quoi consiste la plus fine sagesse, pourvu qu'on se trompe toujours, pourvu qu'on s'étourdisse bien sur ce qui fait de la peine et qu'on ne songe à l'avenir que pour mieux profiter du présent, pourvu qu'on ait réduit sa raison à ne raisonner plus sur les choses que Dieu n'a pas voulu soumettre au raisonnement, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Non seulement je crois avec Salomon que le silence du sage vaut mieux en ce cas que le discours du philosophe, mais je fais plus d'état de la foi du plus stupide paysan que de toutes les leçons de Socrate. Et alors là, c'est très complexe. Et ça veut dire que quand Sganarelle dit « je crois qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme », il n'est pas sûr que Molière rigole et se moque de Sganarelle. D'un certain point de vue, nous sommes tous des Sganarelles en matière de métaphysique. Pour le libertinage érudit, notre discours analogique sur Dieu est nécessairement inadéquat. Et au fond, il vaut mieux rester silencieux. Et d'une certaine manière, ce que les philosophes disent de Dieu, en matière de métaphysique et de théologie, ne vaut pas plus cher que les bredouillements du paysan.
Mais ça aussi, c'est l'attitude sceptique. Parce que j'entends que le sceptique argumente. Ça, Bernard Sèvres, vous le montrez dans vos travaux aussi tellement bien. Mais il y a aussi le motif de l'aphasie, le fait que, à un moment donné, le discours est circulaire et que tout ce qu'il nous reste, c'est d'agir instinctivement, sans théoriser ce qu'on fait, comme Don Juan qui ne théorise pas le fait qu'il va porter secours à Don Carlos. Il le fait, c'est tout. Donc le peu de mots, comment vous l'entendez, cette sagesse dont vient nous parler
Alors, effectivement, il y a les témoignages anciens sur le scepticisme ancien disent bien que Timon de Flion ou d'autres disent que l'aphasie, c'est-à-dire le renoncement à un énoncé déterminé, est l'aboutissement du combat des arguments chez les sceptiques, et l'aphasie précède au fond immédiatement l'ataraxie, c'est-à-dire la paix de l'âme. Mais cette aphasie, ça n'est pas l'absence totale de parole. L'aphasie sceptique, l'aphasia, ça signifie le fait de renoncer à porter un énoncé déterminé sur les choses telles que l'on croit qu'elles sont. Voilà. Donc, il y a
une sorte... difficile. En tout cas, c'est pas ce que Barthes a appelé le scepticisme poseur.
Oui.
Mais il a raison, Barthes, de dire que ce n'est, si c'est du scepticisme plus profond, ce qu'on a l'air de dire là, tous les trois, ce n'est pas, il n'y a pas que du scepticisme. Là, il a raison, Barthes. Il y a quelque chose d'autre.
Chez Don Juan.
Chez Don Juan.
Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça n'est pas quelqu'un qui met en balance les arguments pour et les arguments contre l'existence de Dieu. Pas du tout.
C'est quelqu'un qui...
C'est quelqu'un qui, de manière
qui, assez même, provocatrice... Qui est dans un suspens sceptique, mais pas seulement sceptique.
Sceptique, mais pas seulement sceptique, et assez provocateur, que le ciel me parle plus fort.
1787, l'opéra de Mozart, Don Giovanni, c'est le début, la première scène. Anna s'est défendue contre un Don Juan qui a essayé de l'assaillir par un éros débordant et qui n'a aucun scrupule. Aujourd'hui, on appellera cela tout à fait clairement une tentative de viol. Elle est sonnée. Ce début n'a strictement rien à voir avec les enjeux du Don Juan de Molière. Est-ce que je me trompe?
Non, vous ne vous trompez pas. C'est un Don Juan érotique, sensuel, violent, et qui ne fait aucun cas de ce que peut ressentir autrui, en l'occurrence les femmes qui l'agressent. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est assez étonnant que Leporello, qui est l'équivalent chez Mozart du Sganarelle de Molière, Leporello dit à un moment, il a essayé de forcer la fille, Sforza, ensuite il a tué le père, le commandeur, et il ajoute, et que voulait Donna Anna la réponse de Don Juan, c'est, on s'en moque, enfin j'ai oublié la phrase exacte, mais ça ne l'intéresse pas du tout.
Je suis quand même étonnée que souvent le Don Juan de Mozart, chez les philosophes, soit bien davantage préféré. Je pense à Kierkegaard, dont vous nous avez d'ailleurs donné toutes les références de ce texte, c'est dans Ou bien, en 1843, préféré au Don Juan de Molière. Alors, parce qu'il y a quelque chose de romantique dans le... Dit-on, mais on oublie la tentative de viol. Enfin, je suis un peu étonnée qu'on ne voit jamais cette violence avec laquelle Mozart a commencé l'opéra. Vous ne trouvez pas ?
Oui, alors c'est étonnant. On peut être étonné qu'on gomme aussi facilement cette tentative de viol, qui est d'ailleurs beaucoup plus loin dans l'opéra, exposée en détail par Donna Anna quand elle raconte ce qui lui est arrivé.
Qu'est-ce qu'on aime chez lui alors ?
Alors,
ce qui intéressait
Kierkegaard dans Don Giovanni de Mozart et dans le texte que vous venez de rappeler, dans l'alternative ou bien, il y a deux traductions, c'est la puissance de la musique. Et l'idée fondamentale de Kierkegaard, ça consiste à dire que Don Juan n'est pas un séducteur parce qu'il ne parle pas. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Il y a une sorte de silence fondamental de Don Juan. Par parenthèse, d'ailleurs, il n'y a que 3 grands airs de Don Juan dans cet opéra. Pour un personnage central, il intervient sans cesse dans les récitatifs, le duo, les ensembles, mais d'air, il n'en chante que 3. Et qui sont d'ailleurs secondaires par rapport
finalement,
à l'action.
Il est aussi un petit peu silencieux.
Et donc, c'est en ce sens qu'il est silencieux. Oui. Et Kierkegaard dit quand même quelque chose de très profond. Quand il dit Don Juan n'est pas... Don Giovanni, pour distinguer de celui de Molière. Don Giovanni de Mozart et da Ponte n'est pas un séducteur, il est un trompeur. Et la séduction suppose l'usage du langage, la manipulation et promettre le mariage, par exemple, ce que fait d'ailleurs Don Giovanni quand même, mais enfin bon, passons. Alors que la tromperie, la force de la tromperie, c'est l'immédiateté de l'éros. Ce que Kierkegaard, dans son vocabulaire, appelle la génialité sensuelle, mais c'est l'immédiateté de l'éros. Or, seule la musique est capable d'exprimer cette immédiateté de l'éros, alors qui, effectivement, va jusqu'à une violence dont Kierkegaard ne parle pas. Bon, ça peut aujourd'hui nous étonner ou nous choquer, mais ça n'invalide pas pour autant, je pense,
bien
ce qu'il peut y avoir de fort.
D'une certaine façon, la pulsion est mise en scène dans ce qu'elle peut d'avoir de mauvaise foi.
Et Don Juan n'est même pas une individualité, dit Kierkegaard. C'est pas un individu déterminé. C'est une sorte de force dont le seul médium expressif ne peut être que la musique, c'est-à-dire l'immédiateté.
Jean-Charles Darmon, ce n'est pas votre spécialité, Mozart, mais enfin quand même Don Juan, vous connaissez bien l'âge classique, la pulsion et la musique qui la montre, ce sont des impossibles du XVIIe siècle, c'est ça, ça marche à la fin du XVIIIe. Mais ce n'est pas possible de montrer des choses pareilles, ça n'aurait pas été possible au XVIIe.
Alors, je ne pense pas, parce que dans le théâtre de l'âge baroque, on a vu bien pire.
Ah, bon, alors très bien.
En matière de viol sur scène,
je retire ce que je viens
de meurtre
dire.
Sur scène, on a vu bien pire. Mais je crois que les deux, y a deux différences majeures. Mais là, je parle, je ne suis pas du tout spécialiste de Mozart. La première différence qui m'a frappé en relisant Kierkegaard, justement, dans Ou bien, c'est exactement ce dont il était question, quand il dit que Don Juan, sa vie, sa vie est faite de moments qui n'ont aucun rapport, aucune relation les uns avec les autres.
Hein, je suis désolée, il faut que je vous demande de raccourcir un tout petit peu.
Don Juan devient épique, sa vie est la somme de moments distincts qui n'ont aucune relation entre eux. Alors que le Don Juan de Molière, hein, Barthes parle d'une poussée continue, la scène avec Elvire, la scène avec le Don Luis, la scène avec le commandeur. Là, au contraire, il y a des relations sous-jacentes, des analogies de structure. Hein. Il est en dette de quelque chose. Oui. Donc ça c'est le premier aspect. C'est ce qui donne une profondeur silencieuse.
Et pardonnez-moi, le deuxième, il faut aller très vite parce que... l'énoncer, disons.
Effectivement, c'est la musique. La voix de Don Juan chez Molière... est une voix solitaire, éminemment solitaire. Quand on écoute l'opéra de Mozart, la voix de Don Juan est prise dans des arias où elle rejoint des autres, aussi bien avec Anna, avec la scène de la reconnaissance de Don Juan, mais même à la fin, le banquet funèbre.
Alors justement, on finit par la fin. Et la fin, elle se termine par un silence, c'est le silence de la mort. C'est là qu'il y a un silence dans la musique, on l'écoute.
Gli spiriti non escono quei volti di fuoco pianto tutto giornale volto che vince mal per i giorni di terra di sfilarci c'è di sera che strazio le teste in Spagna che certo pesce errore e errore
Oh,
Silence, silence de la mort. Merci beaucoup Jean-Charles Darmon et Bernard Sèvres pour toutes vos analyses sur Don Juan, chez Molière et chez Mozart. Maintenant la chronique de Frédéric Worms qui nous parle de morale et de politique, c'est le pourquoi du comment.
Pourquoi l'éthique a-t-elle besoin de la politique? Le lien entre la politique et la morale est souvent réduit à ces deux extrémités opposées et souvent très abstraites. D'un côté, finalement, une politique qui ne se mêlerait pas de la morale, qui se contenterait de gérer des urgences publiques communes, extrêmes, qui gérerait la sécurité, en d'autres termes, face à la guerre ou à la misère, et qui laisserait la morale aux êtres humains individuels. Et on comprend pourquoi, finalement, cette politique minimalement morale, centrée sur les urgences, a aussi un effet positif pour nos vies dans la mesure où elle nous laisse développer nos choix moraux librement, où la politique ne se mêle pas de nos vies et de nos choix moraux. De ce côté, la politique minimalement morale, ce qu'on appelle le réalisme ou le pragmatisme politique, est aussi défendue par certains au nom d'un certain libéralisme moral. Il faut laisser chacun vivre ses choix moraux sans que la politique s'en mêle. La politique se préoccupe de la sécurité, d'une justice minimale, et c'est à la morale individuelle individuel, privé en quelque sorte, de s'occuper de nos choix éthiques fondamentaux. D'un autre côté, on a l'impression que l'extrême inverse est une politique qui se chargerait de la morale dans son ensemble, qui chercherait à réaliser la justice en ce monde et qui, d'une certaine manière, court le risque d'un idéalisme abstrait et aussi d'une intrusion dans nos vies, finalement nous imposant non seulement des règles communes de comportement pour éviter la guerre, y compris la guerre civile, mais aussi des choix moraux fondamentaux allant jusqu'à régir l'ensemble de nos vies, de la naissance à la mort, en passant par l'amour et la sexualité. Comment trouver, en quelque sorte, un terrain commun, un entre-deux dans cette abstraction d'une politique minimale d'un côté ou d'une politique maximalement morale qui viendrait jusqu'à peut-être courir le risque de tyranniser nos vies au nom du bien, depuis le pouvoir que nous confions aux politiques, face à des dangers communs, d'organiser l'ensemble de la société. Mais là, encore, ce sujet est abstraitement réduit si on s'en tient à ces deux extrêmes. D'un côté, la politique est faite aussi pour gérer les conflits interindividuels et est aussi faite d'actions concrètes par des êtres individuels, des gouvernants et des gouvernantes, dont la vertu a toujours constitué, depuis Platon et Aristote, un enjeu fondamental. Les gouvernants doivent aussi respecter des règles éthiques. Mais d'un autre côté, le rôle d'une politique dans nos sociétés modernes, pour le coup dans nos sociétés démocratiques, c'est de s'occuper de l'éthique, non pas finalement pour dicter une morale unique définie abstraitement à tous les citoyens, mais pour définir des principes communs qui permettent aux éthiques raisonnables de chaque citoyen, à leurs choix différents, au choix des uns pour tel ou tel principe et au choix des autres pour tel ou tel autre, de coexister dans une société juste. Ainsi, les lois de bioéthique sont-elles moins chargées d'imposer une morale commune à tout le monde que de définir des limites négatives qu'il faut respecter dans nos relations? Par exemple, comment respecter les relations entre les êtres humains, entre des exigences contradictoires, celles du soin et celles de la liberté individuelle en fin de vie ou en début de vie? Comment concilier donc des positions morales potentiellement en conflit? Et aussi, comment concilier des choix qui peuvent être les uns et les autres légitimes? Comment concilier des éthiques, des morale raisonnable dans une même société démocratique? Le lien entre morale et politique n'est pas un déchirement entre une politique minimale et peut-être violente ou maximale et peut-être de nouveau violente, mais un lien concret tenant aux contradictions internes aux êtres humains et pour lesquelles on a besoin de l'une et de l'autre.
Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Jean-Guilain Meige. Merci à toute l'équipe d'Avec Philosophie. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.